Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous et bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous irons dans la nature avec un récit onirique québécois. Nous recevrons un grand auteur de BD suisse qui publie un album génial pour toute la famille. Et nous irons aux États-Unis pour un roman brutal et sexuel qui porte un message universel. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
C'est l'un des romans qui fait beaucoup parler de lui en ce moment au Canada. Marie-Hélène Poitras raconte une histoire étrange, une fable proche de la nature et des mystères de l'âme humaine, un livre fondé sur la liberté et les secrets qui entravent la vie. Il est devenu incontournable en librairie. Le Suisse Zep publie un nouvel album de Titeuf. En cette veille de vacances, Titeuf part en colo et il découvre la nature avec un humour salutaire en ce moment. Un petit chef-d'œuvre qui s'adresse à toute la famille, probablement le plus grand album de Titeuf. Et puis nous irons aux États-Unis avec le nouveau roman Événement de Laurent Chalumeau. Son titre Vice ou Vice est fidèle au contenu. Une analyse atypique de la violence faite aux femmes avec un personnage féminin qui prend sa liberté en misant sur une sexualité plutôt débridée. Il va se passer des choses aujourd'hui avec nos invités et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Nathalie Clairin représente la Belgique, libraire dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Parfait. Josiane Letourneau est avec nous aussi. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes au Québec, vous représentez le Québec, toujours dans la même librairie ?
Ben oui, toujours. Librairie du Square.
Du Square, voilà, à Montréal. Ravi de vous retrouver. Thomas Auxerre, jeune papa et libraire en France à Puteau, à proximité de la Défense, à la frontière de Paris. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Et à Puteau, tout va plutôt bien, comme on dit là-bas.
Comme d'habitude.
Fameuse blague. J'adore cette idée. Bon, merci d'être avec nous pour représenter la Suisse aujourd'hui. C'est l'élégante Dominique Bressou dans sa librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vacciné, chic et en pleine forme, n'est-ce pas?
Absolument.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Vous interviendrez tout au long de l'émission, car ce programme est le vôtre, vous libraires indépendants.
À la Clairefontaine, Manala, promener. Ah.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Oh, oh. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Et bonjour Marie-Hélène Poitras.
Bonjour Emmanuel.
Avec cette version de la Clairefontaine, une comptine que vous citez dans votre livre, signée Manu Dibango, figurez-vous. Vous connaissiez ?
Ah, c'est charmant. Non, je ne la connaissais pas, c'est très beau.
C'est très beau, effectivement. Vous publiez La Desiderata aux éditions Alto, un roman original et étrange. Vous avez pris toutes les libertés et on est complètement dépaysé. On part à Noirax, en pleine nature. C'est où Noirax ?
Ben, c'est drôle que vous disiez que vous êtes dépaysée parce que je me suis inspirée de quelques petits villages français que j'ai visités, Astaffort entre autres et Bourgnac pendant la tournée du Prix France-Québec. Donc,
Si on n'est pas en France, on est dépaysé pour le coup.
Mais on ne dit pas qu'on est en France.
Ben non,
ouais. Avec mon éditeur, on a évoqué un territoire qui serait quelque part entre la Beauce et l'Auvergne.
Ouais.
C'est un territoire inventé aussi, qu'on peut dire.
Oui, c'est ça. Oui. Parce que ce village n'existe pas, hein, on a vérifié. Alors, la nature est présente dans ce livre dès les premières pages. Très décrite d'ailleurs, cette nature. Il y a des extraits de comptines, on le disait, des repas gargantuesques, des orgies, comme à l'époque des Romains. Comme dans les contes aussi.
Oui, c'est vrai, oui. Il y a beaucoup d'exagération à tous les niveaux. Ça déborde du réel. On pourrait dire que c'est un conte ou une fable gourmande. Ce sont des façons de nommer le livre auquel je pensais pas pendant que je l'écrivais, mais oui, j'ai débordé du premier niveau de réel à plusieurs reprises.
Oui, alors gourmande, ça dépend, hein, Marie-Hélène, parce que vous décrivez des scènes de préparation du gibier de façon très détaillée, très précise. Et franchement, vous allez traumatiser les végétariens, les véganes.
Ben moi-même, les gens, c'est drôle, on me dit que c'est appétissant, que souvent ça donne faim en lisant, oui. Mais moi-même, je sais pas si j'ai envie de dévorer ce dont je parle.
C'est vrai. Vous écrivez « Maintenant, il faut en dégraisser l'intérieur hein, ». On parle d'un sanglier. Désosser et mettre la cervelle de côté pour ajouter de l'onctuosité à la sauce. On scie les défenses de l'animal, on tranche sa langue, on l'ébouillante, on la râpe, elle aussi, et tout est prêt pour la mise en saumure.
Oui, c'est ça. Puis c'est la tête du sanglier,
oui,
en fait.
En plus, ouais.
C'est le père de du domaine qui cuisine une hure. Selon les règles de l'art, je dois admettre que j'ai jamais mangé ça. Je sais même pas si... Ben, en fait, il faudrait que la personne qui la cuisine sache vraiment ce qu'elle fait pour que j'y goûte. Mais j'ai fait pas mal de recherches pour quand même savoir un peu de quoi il était question. Mais l'affaire de la cervelle pour l'onctuosité de la sauce, je pense que c'est un petit ajout de ma part, ça.
Ouais. Ça fait rire Zep qui est à nos côtés. Bonjour Zep.
Bonjour.
Vous avez déjà mangé une tête de sanglier comme
pas
ça?
Pas encore, mais je me réjouis d'acheter votre livre de recettes. Pour.
C'est pas un livre de recettes. Vous êtes végétarien, vous, pas?
Non, pas encore.
Non. Alors, dans votre roman, Marie-Hélène Poitras, il y a un notable qui a pour idée de devenir maire. Il aime la chasse, la cuisine donc, et les plaisirs charnels. Le retour de son fils et l'arrivée d'une éleveuse va bouleverser son quotidien, car il y a des secrets enfouis, des drames passés. Ils ont tous, en fait, une personnalité qui interroge.
Oui, c'est vrai. Tous les personnages, d'ailleurs, vont se métamorphoser complètement, les personnages principaux. C'est comme ça que j'ai construit le livre. Au début, les personnages sont dans une position. Par exemple, le père auquel vous faites allusion, il est dans une posture toute puissante. C'est lui qui a le pouvoir. Mm-hmm. Le personnage qui arrive d'Aliénor, c'est un personnage qui arrive avec une sorte de colère, mais une sorte d'arrogance aussi. Et un côté très fantasque. Donc, ces personnages-là, à la fin, vont être complètement ailleurs. Aliénor va se libérer de quelque chose et le père va être en quelque sorte déshérité.
Oui, alors c'est vrai qu'Aliénor, c'est le personnage un peu central, parce qu'on se dit qu'il va se passer des choses avec elle. Gentil, c'est lui, hein, le fils libre, bisexuel et amateur d'orgies ou de relations à plusieurs. Tout ça est dans la normalité dans votre ouvrage et en tout cas dans ce village. Tout est possible, tout est autorisé dans votre monde.
Je dirais que ces personnages-là s'autorisent beaucoup de choses et ils vivent en retrait du village, dans un domaine, même qu'il y a des personnages qui constatent à la fin du livre que ces gens-là vivaient à une autre époque, avec leurs mœurs à eux. C'est pas un huis clos,
mais presque,
il y a presque cette énergie-là,
C'est-à-dire qu'ils vivent un peu comme ils veulent. Ils utilisent des moyens de transport un peu étranges, à la fois le ballon dirigeable, la voiture, peu importe. Vous avez fait un mélange de tout ça.
Oui, c'est vrai. À chaque fois, je me suis demandé qu'est-ce qui serait un peu too much, où je peux aller trop loin. Puis je l'ai fait chaque fois. Puis c'est un roman que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Donc, des fois, j'arrivais dans un coin d'où je savais plus comment ressortir. Mais j'avais beaucoup de temps pour trouver des façons et des solutions. Puis quand on déborde du premier niveau de réel, il y a toutes sortes de possibilités de récits qui n'existent pas habituellement, qui apparaissent soudainement. Donc ça, j'ai trouvé ça... c'est devenu un jeu pour moi de construire ce récit.
Oui, parce que c'est très ciselé, en fait. Il y a plein de choses dans ce livre. Et on s'aperçoit, effectivement, que vous avez fait des recherches, en tout cas, dans l'imaginaire. Vous osez des choses par petites touches. Et parfois, on s'y retrouve ou pas. On va voir avec nos libraires ce qu'ils en ont pensé, Marie-Hélène Poitras. Avec la Belgique, Nathalie Clairin.
Moi, Emmanuel, je dis waouh, un grand waouh, oui. C'est d'abord sensuel et charnel, au sens compagnard du terme. Et la richesse de la description est vraiment époustouflante. Et puis alors, dans un même élan, on en vient à une réflexion où se mêle comme ça, en quelque sorte, le conte de Peau d'âne et le thème du désir de vivre, ou du désir tout court. Et alors là, Marie-Hélène Poitras, vous faites côtoyer l'abject et la beauté d'une façon que je trouve tout à fait prodigieuse. Pour moi, ça a été un vrai délice de lire une écriture si riche et en même temps si fluide. J'ai adoré.
Bien, ça commence bien pour vous, Marie-Hélène. La France, Thomas Auxerre.
Oui, alors moi, j'ai été... En fait, c'est un livre qui m'a assez étonné, pour être honnête. D'un côté, le sujet est original. Le traitement que vous en faites avec une langue, on va dire, organique et très imagée, ça m'a bien plu. D'un autre côté, peut-être que j'ai trouvé l'ensemble un peu lourd. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce conte un peu cruel, où tous les personnages, cherchent la jouissance... c'est très original. Et puis, sans doute, le plus important, ça surprendra à coup sûr tous les lecteurs.
Ah ça, c'est sûr que c'est surprenant. Tout cela tourne autour de la mystérieuse maison au parfum Marilyn Poitras et les légendes comme ça qui occupent une place importante dans la mythologie populaire de Noirax. Et on le disait, voilà, tout se mélange, le moderne et l'ancien, avoir des pratiques libertines, échangistes, et en même temps chercher la vérité, chercher à préserver la nature, voire même le développement durable. Il y a un côté écolo dans ce livre.
Oui, un côté écolo, mais il y a aussi une recherche de justice. Il y a des personnages qui vont aller très loin pour remettre les pendules à l'heure, pour régler des problèmes qui duraient depuis trop longtemps au détriment toujours des mêmes personnes. Donc, il y a aussi peut-être pas une vengeance parce que ça se termine quand même de manière
on va pas dire la fin chaotique.
Ouais. Ouais.
On va pas dire la fin. Vous évoquez plein de choses. Hein. Au début de l'histoire, il y a les réserves de kaolin aussi, les réserves épuisées qui faisaient pourtant la fierté du village. Qu'est-ce que c'est le kaolin? Dites-nous.
Je l'entends comme une sorte de céramique. D'ailleurs, la fameuse malmaison dont je parle, ça m'a été inspirée par une petite auberge à Bourgnac, ouais. Où j'ai séjourné pendant la tournée du Prix France-Québec. Et puis, dans la salle de bain, il y avait des superbes tuiles avec des pans. C'était blanc et bleu, une espèce de bleu outre-mer avec du doré. Et puis, je décris exactement ces tuiles-là. Mmh. Et j'ai eu envie de nommer cette matière le kaolin.
Alors, donc, ça existe, hein. Vous savez que ça existe, Marilyn.
Ça existe, hein.
Oui, c'est de l'argile. C'est de l'argile blanche, en fait, qu'on utilise pour le papier, pour les cosmétiques, aussi pour la médecine. Il y a même certaines femmes d'Afrique qui en mangent un peu comme une drogue et c'est très dangereux. Donc, ça existe.
Ah oui, c'est vrai, hein.
Ouais.
OK, d'accord. Ben, probablement que j'ai eu cette info-là puis que ça m'est ressorti de la tête, mais que j'aimais le mot. D'ailleurs, même le mot desiderata, c'est quelque chose que j'entendais souvent en France, même au restaurant, quand on nous demande ce qu'on veut manger. Et c'est une expression qu'on utilise très peu ici au Québec, puis je trouvais ça super beau.
Les desiderata, effectivement. Et kaolin, tiens, Zeb, vous savez que c'est un groupe, kaolin?
Ouais, ça me dit quelque chose.
Ah oui?
C'est un groupe, oui, bien sûr, un groupe français qui a fait des tubes. Hein.
Chantez-nous un petit truc, Emmanuel.
Oui, il y avait Partons vite, par exemple. Vous vous souvenez de ça?
Partons vite.
Non, c'est pas ça du tout. Mais je l'ai pas en mémoire. Hein. Sinon, je l'aurais chanté, je vous assure. En tout cas, voilà, vous pouvez écouter kaolin sur les plateformes. Bon, merci beaucoup, Marilyn Poitras.
Merci Emmanuel.
La Desiderata est parue chez Alto. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. À suivre le génial nouvel album de Titeuf, pas comme les autres, vous allez comprendre. Ne manquez pas cet entretien, cette découverte qui vient tout juste de sortir en librairie. Voici une curiosité musicale avec les Limignanias et Laurent Garnier dans la librairie francophone.
Il s'agit d'un petit mec de Provence.
C'était les Limignagnas avec Laurent Garnier, s'appelait beaucoup Azep. Hein. Ça, hein, ça,
non, mais... surtout le nom, en fait.
Mais c'est génial, c'est un groupe génial, Limignagnas. Okay, Limignagnas. Soul, donc c'est le titre.
Les médias francophones publics.
Radio France. RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
En ce week-end de la sortie, événement du nouvel album de Titeuf, Zep est avec nous. C'est une histoire complète, Zep. Pas de succession d'histoires courtes sur une planche ou deux. Cela me fait penser à Boulébile avec Roba, qui en 1982 fait l'événement avec l'album Globetrotter et qui sort pour la première fois une histoire complète. Et là aussi, Boulébile part en vacances.
Ouais,
vous vous rappelez de ça?
Je me rappelle ça, c'était un séisme pour les fans de Boulébile.
Oui. Ouais.
Ouais. Bah là, moi j'avais déjà fait l'exercice deux fois dans la série de faire un long récit. J'avais envie de vacances en fait. Je pense que j'avais aussi envie de vacances avec tout ce qui s'est passé là, ce confinement et de sortir Titeuf de son univers habituel. Et effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire vivre comme aventure à un petit garçon qui a 10 ans? Il peut pas aller au Congo, il peut pas aller sur la Lune. Donc, la colo, ça reste le truc qui marche. Et puis, j'ai fait un album il y a quelques années autour de la forêt qui s'appelait Diane, qui pas un album de Titeuf, et
pour
un
adulte,
album plutôt drama, Et ça m'a donné envie d'emmener Titeuf aussi dans cette forêt, voir ce qu'il ferait.
Alors, l'histoire complète, c'était Nadia se marie, c'est
Nadia
ça?
Nadia se marie, tome 10, et Bienvenue en adolescence, le 14e, je crois.
Alors, Titeuf, loin de la ville et de l'école, n'a pas trop envie de partir en camp de vacances, en tout cas pas en colo verte. Il s'est fait un peu avoir sur la marchandise.
C'est clair, il découvre en même temps que le merveilleux monde de la colo, que ses parents sont des traîtres parce qu'ils lui ont menti. Ils lui ont fait croire qu'il avait inscrit un camp de jeux vidéo. L'arnaque existe, elle est assez,
c'est vrai,
elle est assez fréquente. J'ai cherché vachement, j'ai trouvé un camp de jeux vidéo au Québec, mais c'est assez rare. D'habitude, il y a cette idée que justement les enfants partent, surtout les enfants de cet âge, normalement, on est encore à une période, ça va peut-être durer pas très longtemps, où ils posent leur téléphone portable. Donc ça veut dire qu'ils changent vraiment de monde.
Oui, c'est ça.
Tout à coup, ils sont obligés d'ouvrir les yeux et de regarder autour d'eux, mais ça passe plus à travers un écran.
Alors c'est le problème des enfants qui partent en colo, ça. Ils y vont rarement de bon cœur. C'est souvent vécu comme une punition, voire comme un abandon.
Bon, moi c'était ça quand j'étais gamin, si j'étais pas sage j'allais en colo.
Et donc j'étais
hyper sage parce que j'avais très peur d'aller en colo. Et je me rappelle que des copains qui étaient partis en colo avaient adoré ça, et j'avais entendu leurs parents leur dire: si tu continues à faire ça cette année, tu vas pas en colo. Donc il y avait un espèce de truc qui se renversait comme ça, mais je crois que c'est juste parce que ça fait un peu peur en fait.
C'est
l'inconnu, c'est plein de gens qu'on connaît pas, c'est un univers, un espace qu'on connaît pas, il y a plus nos parents, et en même temps moi j'ai été moniteur de colo quand j'avais 20 ans, et on voit la transformation des enfants sur un séjour. Ils arrivent, ils sont dans leur coin, à la fin ils tapent dans le dos des moniteurs comme si on était leurs potes. Enfin, il y a vraiment un truc de croissance qui se passe pendant cette semaine ou ces deux semaines qui passent ensemble.
Son père lui dit que c'est bien mieux d'être au grand air que de rester à la maison, et Titeuf répond: c'est nul le grand air, il y a bien assez d'air dans ma chambre.
C'est vrai,
c'est génial. Il va rencontrer donc des moniteurs. Alors peut-être que vous étiez le fameux Yann à la coiffure débile, le moniteur un peu débile. Vous aviez une coiffure débile?
J'avais une coiffure débile. J'ai toujours eu des coiffures débiles.
Mais non, ça va. Non,
ça va, mais il n'y a plus de coiffure maintenant.
Mais non, c'est facile. Ça fait très longtemps que je vous connais, Philippe. Vous n'avez jamais
eu de coiffure débile. Ça réduit quand même,
vous avez remarqué.
Mais j'ai été moniteur, mais je ne suis pas tellement parti sur mes souvenirs de moniteur, parce qu'il m'intéresse toujours dans Titeuf, c'est la posture de l'enfant qui observe. Je me suis aperçu même que les parents de Titeuf, après 17 albums, n'ont toujours pas de prénom. On ne sait toujours pas comment ils s'appellent. Parce qu'on s'en fout, au fond, on ne sait pas ce qui est intéressant dans la série, c'est vraiment le monde des enfants et comment ils observent les grands.
Comment ils s'appellent, les parents?
Bah, je sais pas.
Ah, c'est vrai?
Non, je sais pas.
Vous n'avez pas une petite idée?
Non, je sais pas. Emmanuel, si vous voulez.
Ah, c'est bien ça?
Ouais, c'est bien. Hein.
Ah, mais partez là-dessus. Hein. Moi, je suis d'accord.
Ça va marcher.
Ça va marcher. Il y a déjà un Manu dans l'histoire.
Donc, ouais, c'est en fait de ça.
Emmanuel et Sylviane?
Bon,
Sylvie,
allons-y. Ouais.
C'est pas mal. Bon, les moniteurs, donc Iron Mono, qui a plein de piercings.
Ouais.
C'est le seul d'ailleurs à avoir du réseau pour le téléphone. Louane, il y a Shirley, l'anglaise, qui mange des sauterelles vivantes, surnommée la cannibale des sauterelles.
Ouais.
Elle n'est pas cannibale si elle mange des sauterelles.
Non, mais bon, Titeuf a souvent une compréhension assez limitée du français, donc. Non, ils sont très impressionnés par cette monitrice anglaise qui bouffe des sauterelles. Alors pourquoi anglaise, je sais pas, mais je me dis que les Anglais ont souvent des habitudes alimentaires assez étranges. Oui, comme il n'y a pas de duplex avec l'Angleterre, on peut un peu dire des saloperies sur les Anglais. On est entre nous.
C'est une émission francophone. Voilà. Ouf. On peut charger les anglophones sans problème. Ouais.
Et mais bon, ça reste une espèce de galerie d'adultes qui sont là plus comme figurants. Non, ce qui était marrant, c'était de pouvoir changer le groupe de copains.
Oui.
D'avoir,
oui.
À part Manu qui l'accompagne, mmh. et puis Thérèse qui est un personnage que j'aime mmh. beaucoup, qui est vraiment la
relou de service.
C'est un personnage qui est complètement largué, qui est complètement sur la lune tout le temps, donc Titoff la déteste parce qu'elle l'énerve. Oui. Mais en fait, plus le temps passe, plus je pense que c'est celle qui a... Enfin, j'imagine le plus Titoff s'il grandissait, ce qui lui arrive pas, et qui basculait dans l'horreur de l'adolescence et qu'il avait une aventure amoureuse, ce serait avec elle, je pense.
Ah oui.
Parce que au moins, il a une relation avec elle. Les autres filles, c'est une espèce de fantasme, il les observe, mais ouais, il sait ouais. pas quoi leur dire. Ouais. Alors que là, au moins, ils s'engueulent tout le temps avec. Donc, il se passe un truc. Moi, je me rappelle quand j'étais petit lecteur, une série qui me fascinait, ça s'appelait Corinne et Jeannot.
Ah,
c'était
oui.
un tandem de personnages. Vous vous rappelez de Corinne et Jeannot? Et c'était un truc presque sadomaso, en fait. Ils se haïssaient les deux.
Amour-haine.
Mais au fond, c'était une histoire d'amour très forte. Mmh. Et ça nous faisait rêver.
Alors, c'est vrai qu'il y a de nouveaux amis, Zep, la petite Stella qui parle dans la fréquence des fourmis. Dites-vous, elle parle tout doucement comme ça. Mmh. Et puis Jimmy qui pue des pieds. Et il y a aussi Tracy et Marie qui découvrent les arbres. Et ça, c'est génial parce qu'elles sont fans de foot.
Ouais, elles parlent que de foot tout
voilà.
le temps.
Et donc,
elles voient
les arbres.
Elles disent, c'est beau, ça ressemble à des poteaux de foot avec des feuilles.
Des poteaux de but avec des feuilles.
Des poteaux de but avec des feuilles, ouais. Ouais, donc je me suis bien amusé avec tous ces personnages. Alors au départ, on sait jamais. En fait, quand on commence à écrire, on fait un groupe de personnages et puis après, il y en a qui prennent plus de place parce qu'ils sont plus intéressants, d'autres qui en prennent moins. Mmh.
Vous aimez beaucoup les arbres, hein?
J'aime beaucoup les arbres et j'aime beaucoup les personnages.
Non, mais c'est vrai que, non, mais vous dites que vous en dessinez comme ça depuis l'âge de 25 ans.
Ouais.
Dans des carnets, vous avez des carnets remplis d'arbres.
Ouais, ouais, j'ai développé presque une relation avec les arbres à force d'aller les dessiner. De passer du temps avec eux, en fait. Ça m'a appris des choses. Quand j'ai commencé à faire Titoff, j'étais vraiment content. J'ai choisi de faire une série urbaine parce que j'étais incapable de dessiner la nature. Ça ressemblait à des réverbères avec de la mousse verte dessus. Enfin, c'était des pauvres décors de. Ouais. Et puis, petit à petit, je me suis dit qu'il fallait quand même que, enfin, comme tout ce qui me manquait dans mon dessin, ce qui est souvent le cas, les auteurs de BD, enfin, on commence à faire de la BD enfant et on a envie de dessiner souvent que des personnages ou que des voitures ou que des fées ou des dragons, je sais pas, mais il y a un truc qui, moi, c'était les personnages. Et donc, tout le reste ne m'intéressait pas du tout. Donc, je le copiais dans d'autres bandes dessinées. Et puis, à un moment, on se dit, bon, on va pas s'en sortir toute une vie comme ça. Donc, il faut aller dehors et puis dessiner le vrai monde et le traduire avec son trait. Ouais, ouais. Et autant, quand je le fais pour des immeubles, des ponts, des voitures, je le fais parce que c'est le job. Mais les arbres, il s'est passé un truc. Ça m'a séduit au point d'en faire un album dont ils sont les personnages.
Alors, il y a deux gamins aussi, fan de rap qui parle en verlan, et j'ai trouvé une petite erreur, Zep.
Dites-moi.
Dans le dernier Titeuf, il y a fourmi en verlan.
Ouais.
Et fourmi en verlan, c'est mi-four.
Ouais, j'ai mis quoi?
Rmi-fou. C'est page 18.
Ça se discute, franchement, parce que ça dépend de quelle école de verlan vous parlez,
ouais,
mon cher Emmanuel.
Ouais.
Rmi-fou, c'est possible.
Ouais, c'est possible. Bon. Les libraires, hein, ils vont trancher.
Ils vont trancher, ok, d'accord.
Avec la Belgique.
Oula, j'ai peur, t'as couché l'impression.
La Suisse et le Canada, oui. Allons-y, on commence par qui? La Belgique, la Suisse ou le Canada?
Ah, la Belgique.
Ah, la Belgique, allons-y. Nathalie Clairin.
Ah, c'est un super album. Moi, je pense que les jeunes ados vont vraiment aimer. Et on mâche pas ses mots, bien entendu. On appelle un chat, on rit de tout. Alors, à cet égard, Zep, je pense que vous allez encore une fois aider les parents à répondre à pas mal de questions. Et j'ai trouvé par ailleurs la mise en couleur de la BD qui est tout à fait particulièrement réussie. Donc en résumé, c'est vraiment du grand Zep.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord. La Suisse avec Dominique Bressoux, un peu plus mitigé, je crois. Hein, on n'est jamais mieux servi que par les siens, Zep.
C'est toujours comme ça. C'est toujours comme
Attendez, elle n'a rien dit. Mais bon, d'après ce que je sais, c'est moyen, Dominique.
Oui, nettement plus mitigé. Alors, voilà, les Titeufs, on aime ou on n'aime pas. Et j'avoue que je ne fais pas partie de la première catégorie. En fait, pour moi, c'est quand même un peu toujours le même schéma, l'impression de dire un peu les mêmes répliques d'un petit macho dans l'âge bête.
Non.
Cela étant, écoutez jusqu'au bout.
C'est moi qui parle, c'est pas
Zep. C'est pas moi qui dis non. Moi, je vous écoute religieusement.
Allez-y.
Cela étant, cet album, il recèle vraiment quelques perles d'humour. Mais franchement, moi, ce que j'attends avec impatience quand on annonce un nouvel album de Zep, c'est plutôt quelque chose d'aussi magnifique qu'Un bruit étranger beau ou The End, pour ne citer que celle-là. Ouais. Voilà.
Bon.
À moi, ça. Et va. Vous ne nous avez pas dit pour Remifou, c'est Remifou ou c'est Remifou alors?
C'est Remifou.
Ah, non, mais, non, mais... Ouais, elle est avec moi quand mais même. Ouais, sur ce point-là. Ouais,
mais franchement, c'est pas courageux ça. Le Canada avec Josiane Letourneau qui n'est pas du tout d'accord avec sa collègue suisse.
Ben, en fait, moi, je vais avouer que c'est ma première rencontre de lectrice avec Titeuf. Et puis ce groupe, bon, un peu archétypé, oui, mais solidaire, rigolo, candide par moments aussi, m'a fait passer un bon moment de lecture. Comme Dominique, j'ai cueilli des perles d'humour, des pages de nature que j'ai d'autant plus appréciées parce qu'elles surgissent comme de jolies surprises. Et j'ai particulièrement aimé la façon dont vous avez, à travers la voix des enfants, dédramatisé la marginalité. Ça s'est bien joué.
C'est vrai. Merci. Il y a dans ce Titeuf des doubles lectures possibles, Zep. Tout est en lien, en écho. C'est drôle, subtil, intelligent. Franchement, c'est le meilleur Titeuf, selon moi. Et tout le monde peut le lire. C'est parfait en famille, en vacances. Bravo, Zep. Franchement, j'ai été fasciné par cet album. Et voilà. Bon, après, l'univers de Titeuf, c'est, bon, je suis pas un collégien. Enfin, je suis pas un enfant, comme chacun sait. C'est parfois plus difficile, mais là, c'est génial.
Voilà. Merci bon. Beaucoup.
Il y a plein de leçons de choses, hein. Donc on le disait, il y a une petite leçon de choses sur les abeilles, décrite par Titeuf comme une bande d'obsédés du zizi sexuel. Expliquez-nous ça.
Oui, c'est dur de vous l'expliquer comme ça, mais en fait, il y a l'incontournable, enfin, il y a plein de visites dans un camp vert, donc ils vont rendre visite à un apiculteur qui leur explique ce que font les abeilles, tout le travail des abeilles, ça les intéresse pas du tout, donc ils regardent juste ça, et ils se racontent des histoires de colos, dont une colo, dont l'idée c'était de mêler avec un autre sujet, donc là ils vont parler de pédophilie, et ils disent que dans une colo, il y a un garçon qui s'est fait piquer le zizi par une abeille, et donc il s'est mis à enfler, mais aucun moniteur pouvait lui mettre de la pommade sur le zizi, puisque son corps lui appartient. Donc là, ils partent dans un grand débat sur est-ce que le corps appartient vraiment au point d'avoir le zizi qui enfle, ou est-ce que... Voilà.
Et il y a le miel. Résumé, voilà. Non, mais c'est ça, c'est bravo, c'est ça.
Donc ils disent, j'en veux pas de ce miel de... Je me souviens plus de la phrase maintenant, mais...
Ce miel de zizi.
Ce miel de zizi, voilà. Ouais.
C'est limite, hein. Alors vous parlez effectivement, vous abordez la pédophilie, vous abordez aussi l'homosexualité, la momosexualité nommée par Manu et par Zep. Il y a aussi l'activité carte postale. Et ça, c'est une planche géniale, parce que Manu va se distinguer, justement. Il y a un moniteur qui veut leur faire écrire un mot pour les parents, hein, comme ils font, et puis il craque, le moniteur, parce que chaque fois, c'est des banalités. Alors il leur dit, mais vous avez pas un truc intéressant à leur raconter? Et Manu, lui, va dire une phrase choc.
Alors, je l'ai pas sous les yeux. Vous voulez pas me la...
Je peux vous la lire. Donc, en fait, Manu écrit, c'est cool, il n'y a pas de pédophilisme. Alors, lui, il lui dit, mais pourquoi tu écris ça? Mais parce que c'est vrai. Vous ne touchez pas les parties intimes et ça fait plaisir aux parents. Et le moniteur, il rentre.
Oui, ça l'achève.
Avec ses potes de colo, il dit, je crois que je vais laisser tomber l'activité carte postale. Et l'autre dit, j'envoie un texto groupé aux parents, ça ira mieux. Voilà, il y a plein de choses comme
ça. C'est vrai que c'est une activité, je pense, qui tend à disparaître, hein, qui est surréaliste pour des enfants d'écrire une carte postale.
Oui. Manu dira à Titeuf qui tombe amoureux d'une monitrice, t'es pénible à toujours tomber amoureux. Et pour Manu, ce sera pour plus tard, quand on sera obligé, mais là, ça sert à rien.
C'est vrai. C'est vrai, Manu est pas dans cette histoire. Titeuf est particulièrement romantique comme petit garçon. Il est tout le temps amoureux et c'est un moteur pour lui. Partout où il va, il tombe amoureux d'une fille. Pour Manu, c'est insupportable. Lui, il est pas dans cette idée. Et c'est vrai que d'être amoureux à 10 ans, ça, d'une certaine manière, ça sort pas à grand chose parce que il pratique pas. Enfin, l'idée de passer des après-midi avec son amoureux ou son amoureuse, c'est pas très fun. On préfère être avec ses copains, s'amuser. C'est une espèce de privation de liberté. Ouais. Mais malgré tout, il y a cet appel qui est de faire comme les grands. Lui, il le fait pour, d'ailleurs, il tombe toujours amoureux de filles qui le tirent vers le haut parce que c'est une manière de grandir.
Ouais. C'est un peu vous, Zep, Titeuf. Je crois que je vous ai déjà posé la question, mais au fur et à mesure que je lis Titeuf et que je vous connais, que je vous interview, il y a toujours, je trouve, cette part d'enfant en vous. Mmh. C'est un peu, il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui ont une part d'enfant en elles, et ils gardent ça au fond d'eux. Et c'est vrai que cet enfant-là ne grandit jamais. On a cette part au fond de nous qui ne grandit pas. On reste un enfant et après on a une apparence adulte de façade, même si on prend de l'âge. Est-ce que c'est ça?
Oui, en tout cas sur ce plan-là, oui, j'étais comme lui et moi j'étais tout le temps amoureux et je pense que c'est particulier l'enfance. Moi j'ai quitté l'enfance comme tout le monde quand je suis entré dans l'adolescence et je l'ai retrouvé à 25 ans en faisant Titeuf. En fait, je l'ai retrouvé et j'ai fait Titeuf parce que je retrouvais mon enfance. C'était une espèce d'expérience étrange où cette enfance m'est revenue. Et aujourd'hui, c'est comme si ça se refermait pas. Mais il y a quelque chose de particulier, parce qu'on passe une longue partie de notre vie dans l'enfance, et on décide pas, on dit pas à un moment, ok, je crois que j'ai fait le tour, maintenant je vais quitter, puis je vais devenir ado. Du jour au lendemain, on est arraché à cette période-là, et puis on passe dans autre chose, on passe par cette espèce d'essoreuse incroyable qui est l'adolescence, on arrive à l'âge adulte, mais on a laissé beaucoup de choses inachevées en enfance. Et de les retrouver, ouais, c'est quelque chose qui est particulier. Et quand on fait un métier comme écrire ou dessiner, c'est souvent des choses qu'on faisait déjà quand on était enfant. Donc c'est aussi c'est un lien qui se fait. Alors je suis pas obsédé par l'enfance en général. J'aime faire d'autres choses que des livres pour enfants ou des livres avec un personnage qui est enfant. Mais c'est vrai que ce lien avec Titeuf, c'est quelque chose qui m'accompagne maintenant depuis bientôt 30 ans. J'ai passé plus de temps avec Titeuf que sans lui, quoi.
Ouais. Bon, merci beaucoup Zep. Merci Titeuf, numéro 17, La Grande Aventure, donc avec les parents au début à la fin, puisqu'il part en colo. Les parents, donc Emmanuel et Sylvie.
C'est ouais, paru j'ai noté.
Chez Glénat. Merci, je sais pas pourquoi Sylvie, mais ça fera plaisir aux Sylvie. Merci en tout cas pour votre fidélité Zep. Merci beaucoup, vous allez rester avec nous. On va recevoir Laurent Chalumeau dans quelques instants avec un nouveau roman rock'n'roll et sexuel. Et puis les coups de cœur et les coups de gueule des libraires dans la librairie francophone. Avant cela, voici le nouveau titre d'Eddie Depréto.
Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laisser les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou, tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freeze, 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 freeze. As-tu vu mes écailles? Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là, qui me protègent à mon insu? Vu scintiller mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre, moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free.
C'était le nouveau titre d'Eddie Depréto avec Fouix dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici à Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires avec la France, Thomas Auxerre et un coup de cœur, je crois.
Et oui, un coup de cœur, Emmanuel, pour un roman jeunesse. Alors le titre, c'est Olympe de Roquet d'Or. C'est écrit par Jean-Philippe Arouvigno et François Place. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et alors, dans ce roman historique, vous allez suivre Olympe. Elle est en fuite. Et oui, parce que son tuteur veut la marier de force et surtout s'emparer de ses terres. Mais malheureusement pour lui, c'est bien mal connaître cette jeune fille. Alors elle qui est plutôt rebelle et qui maîtrise le combat à l'épée et surtout qui n'a pas froid aux yeux. Donc si vous aimez l'aventure, des rebondissements en pagaille, puis vous pouvez me faire confiance, des combats flamboyants, vous allez adorer ce roman de cap et d'épée, et c'est à lire dès 12 ans.
Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci Thomas. En Belgique, un coup de gueule, Nathalie Clairin.
Oui Emmanuel, un coup de gueule parce que je ne suis pas d'accord avec un phénomène récurrent depuis le début de l'année. En fait, il y a bon nombre de nouveaux livres qui sont épinglés par les médias, qui sont massivement réclamés par les clients, et puis boum, ils sont quasi directement en rupture de stock chez le fournisseur. Alors beaucoup de libraires indépendants me confirment aussi le phénomène. Aussi, je lance un appel aux éditeurs pour que ça change, parce qu'en fin de compte, ça discrédite le libraire, et ça c'est très énervant.
Et oui, et après ils vont acheter ça ailleurs, on sait où, il ne faut pas acheter ces livres ailleurs que dans un libraire indépendant.
Exactement.
Voilà, on ne dira jamais assez. Un autre coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Vous savez, Emmanuel, le petit vertige qu'on ressent quand on lit un livre et qu'on se dit « celui-là, j'arriverai pas à le lâcher
». Oui. Bah, Titeuf, par exemple.
Entre autres, mais c'est aussi ce que j'ai ressenti en lisant le premier roman de Frédéric Côté qui s'intitule « Philibuste au cheval doux
oui. »,
qui nous plonge dans un univers familial d'une brutale lucidité, dans toute la beauté et les écueils aussi des relations entre sœurs et dans ce que la télé-réalité nous raconte sur nous-mêmes. Ça m'a étonnée et j'ai absolument adoré.
Un livre captivant. Il y en a un autre qu'on n'a pas envie de lâcher, c'est celui de Laurent Chalumeau. On en parle dans un instant. Philibuste de Frédéric Côté. Donc, merci Josiane. Enfin, un coup de cœur aussi en Suisse, Dominique Bressot.
Oui, c'est un coup de cœur pour de la poésie. Presque 80 ans après leur écriture, il y a une réédition de « Essai pour un paradis » et « Pour un moissonneur » de Gustave Roux chez Zoé avec des photos prises par l'auteur. C'est un pur délice qu'on peut accompagner du livre « Là-bas, août est un mois d'automne » de Bruno Pellegrino qui a si merveilleusement décrit le monde de Gustave Roux. C'est des livres beaux, poétiques, tous les deux en poche chez Zoé, donc un trimballé partout pour s'évader.
Un grand photographe hein, aussi, Gustave Roux, avec des photos un peu érotiques, je crois. Hein.
Légèrement, oui.
Légèrement, avec des hommes dans les champs à moitié nus. Hein.
Voilà.
Voilà, c'est ça. Donc c'est aux éditions Zoé Essai pour un paradis, suivi de Pour un moissonneur. Ah ben voilà, le moissonneur est là. Merci beaucoup, Dominique.
La librairie francophone.
Et bonjour Laurent Chalumeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour la première fois, dites donc, dans la librairie
francophone.
Mais oui,
je suis très ému.
Bah moi aussi.
Mais les premières fois, c'est casse-gueule, ça se passe pas toujours pas très bien.
On va voir ça. On va voir ça avec les libraires. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans qui ont toujours fait parler d'eux en librairie, dans un style direct, une influence américaine, des dialogues concis et efficaces, rock'n'roll, on peut dire. C'est cru, vous vous amusez aussi un peu avec la vulgarité parfois? Ça vous amuse, ça?
Bah, c'est-à-dire que j'ai été obligé de transformer une nécessité, sinon en vertu, du moins en identité.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis vulgaire.
Mais non. C'est vrai?
Oui, enfin, mais moi, je trouve que la vulgarité, c'est comme l'atome. Si on réussit à le domestiquer, ça peut devenir une énergie. Puis il y a une vérité dans la vulgarité. Je viens du rock. Alors, le rock, c'est pas quelque chose qui a été inventé par Oriane de Guermantes, quoi. Je trouve qu'on est très sévère avec la vulgarité.
Bon, alors vous venez de publier Vice, hein, on va dire Vice, dans la librairie francophone.
Bah oui, mais en même temps, ce serait mieux de dire Vice, parce que quand j'ai publié Fuck, personne ne disait Fuck. Donc,
oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien vu. Donc Vice, aux éditions Grasset.
Parce que le titre, en fait, est aussi celui d'une chanson américaine, et du coup, c'est Vice.
Exact. On l'écoutait tout à l'heure, d'ailleurs. C'était une surprise, mais on va écouter Vice tout à l'heure. Donc, le vice d'une femme nommée Esperanza, qui quitte son mari un jour pour vivre librement et surtout sexuellement, avec une frénésie étonnante. Comment est-elle devenue ce qu'on appelle une femme qui couche? Elle couche pour devenir libre?
Non, alors c'est-à-dire que je vais vous pinailler,
allez-y,
si j'ose dire, pour rester dans le sujet, sur le mot étonnant. C'est-à-dire que s'il s'agissait d'un Rubin Pré ou d'un Frédéric Moreau, ça n'étonnerait personne. C'est étonnant parce qu'il s'agit d'une femme.
Et, oui,
et c'est ça qui est merveilleux.
Mais vous insistez beaucoup, hein, quand même.
Vous en faites tout un...
Ah bah oui, parce que ça devient...
Tout un schéma...
Non, mais ça devient le thème du j'allais dire, du film. Non,
du livre. Pas
encore. Inch'Allah. Mais non, ça devient le thème du livre. Et j'ai été le premier surpris de voir comment, en fait, il suffisait de placer une femme en situation de revendication d'indépendance ou d'affirmation d'autonomie et de gourmandise pour l'existence. En fait, ça fabriquait de la péripétie mécaniquement tout seul. Et donc, en fait, j'avais juste à courir derrière ce que ça déclenche. Le récit fait de l'auto-allumage. Mmh. Il suffit qu'une femme ait des comportements qui, chez un homme, passeraient totalement inaperçus, voire seraient célébrés et complimentés, pour que le scandale, pour que le scandale arrive. Il suffit... Non mais moi, je me suis aperçu en écrivant ça, chose dont je ne m'étais jamais avisé jusque-là, c'est qu'une femme qui décide d'avoir un, deux, allez, trois interlocuteurs, pour les appeler comme ça, sentimentaux
ou
sexuels en même temps. Ouais. Se voit contrainte à appliquer des grammaires ou des procédures d'agents infiltrés dans la mafia ou dans le bureau des légendes, en territoire ennemi, parce qu'il faut qu'elle veille bien à ce que Pierre ignore l'existence de Jacques, qui lui-même ne saura rien de Philippe, et que surtout le reste du monde, son entourage, aussi bien familial que professionnel, ignore tout des trois. Ou des quatre, si...
Mais c'est valable pour les hommes, ça aussi, Laurent.
Ah, pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Ah bah non, vous savez bien.
Attendez. Bah, quand on a trois personnes en même temps, on n'a pas intérêt à ce que les autres le sachent. Enfin, je veux pas donner des conseils, mais...
C'est... Alors, c'est aussi à ça que sert le service public, par ailleurs. Mais non, vous avez comme ça... Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a une évolution des mentalités, mais encore récemment, quand je dis récemment, c'était il y a 10 ans, il y avait comme ça des figures de libertins, de séducteurs, alors séducteurs avec une tonne de guillemets, de grands seigneurs méchants hommes, qui faisaient la sourde admiration de leurs proches. Et puis, on voit bien dans les films, il y a des scènes où, généralement, ils ont joué au squash. En sortant de la douche, dans les vestiaires, nos personnages échangent des confidences de garçons. Ouais. Et il y a celui qui a des bonnes fortunes, qui est complimenté ou jalousé par ses copains de sport. Si, si, un coureur n'est absolument pas ostracisé de la même façon qu'une fille qui vit.
Oui, c'est vrai. Il y a un rapport animal, en tout cas, à la sexualité dans notre société et dans ce livre. Donc, vous poussez comme ça la réflexion assez loin, en imaginant un article dans un journal local qui parle de stages organisés à Las Vegas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si vous l'avez inventé.
Je ne l'ai pas imaginé. Non, c'est du copier-coller.
Alors, c'est horrible. Écoutez bien. Pour les femmes, donc, il y a un stage afin de leur apprendre à être féminine à 500%. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et pour les hommes, il y a un stage qui dit que le viol est une forme de sexualité naturelle. Regardez les lions. La femme est au service de votre plaisir sexuel sur Terre pour vous satisfaire. Au lit, elle doit vous obéir.
Alors, on ne se connaît pas bien, mais je vous prie de croire que jamais, même pour sauver ma vie et celle de mes enfants, je ne serais allé inventer une telle abomination. C'est du pur copier-coller.
C'est horrible.
Non, mais ça se pratique.
Certains y croient.
Non, mais ce sont des stages de revirilisation. Le mot est aussi difficile à dire que le concept est difficile à accepter. Non.
Mais ça tombe sous le coup de la loi quand même, aux États-Unis.
Pour le coup, c'est un courant dont les Américains n'ont pas l'apanage. Souvenez-vous que l'excellent Éric Zemmour a quand même commencé à faire parler de lui avec un livre qui, je crois, s'intitule Le premier sexe, où il dénonçait. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je ne suis jamais aussi dissert et docte que. À propos de choses dont j'ignore tout. Et là, je crois qu'il s'agissait à l'époque de reviriliser, c'est toujours ce mot, des générations de mâles qui avaient été émasculées au sécateur rouillé par le féminisme hystérique, ce qui est presque un pléonasme. Le masculinisme existe en France. Il y a des gens qui sont convaincus.
Ça existe partout dans le monde,
Mais
à ce point-là, franchement...
Mais
avec
les mêmes termes. Non, parce que tout ça, évidemment, s'appuie sur des délires pseudo-anthropologues d'observation, c'est pas les bonobos, c'est... il y a tout un fatras théorique pour justifier l'injustifiable.
Ouais. Alors, d'autres, sans tout raconter dans le livre, hein, Laurent Chalumeau, parce que c'est presque un roman noir, presque un polar, donc il y a toute une chute qu'il faut pas dévoiler. Il y a ce qu'on appelle les incels. Hein, c'est ça?
Ah oui, alors c'est pareil, je
ne les invente
pas.
Femmes. En fait, ils s'attaquent aux femmes parce qu'ils partent du principe que ces femmes les privent de sexe auquel ils estiment avoir droit.
C'est-à-dire que voilà, le fait d'être en vie devrait être accompagnée d'une corbeille de mariée. Et l'existence,
avec des droits,
oui, voilà, le privilège d'être né mâle prévoit un certain nombre de
d'avantages sexuels,
en,
voilà,
d'avantages
ça,
en
oui,
nature. Oui, oui. Donc le droit de cuissage.
Parce que c'est naturel et parce voilà. que l'homme a besoin.
Et
de
toujours
ça.
Les, et
c'est ce qu'on dit.
Oui,
c'est ce qu'ils disent.
Et toujours les mêmes théories, voilà, les lions, les gorilles.
C'est ça. Voilà, tout est là. Bon, il y a de la musique qui est très présente dans votre roman, la country music notamment, avec l'un des amants d'Esperanza qui est chanteur dans un groupe. Et puis il y a cette chanson donc de Miranda Lambert. Vous aimez cette chanson-là?
Oui, Vice.
Ben oui.
Parce qu'elle donne son titre.
C'est ça. Belle chanson, effectivement, hein. Miranda Lambert.
Oui,
Vice.
Oui, on va dire Lambert plutôt que Lambert, oui.
Oui, pardon, oui, ça
on va dire Lambert, comme si c'était la cousine de Gérard.
C'est la francophonie, ça, Laurent Chalumeau. Moi, j'ai une déformation, je suis désolé. Cette fille, Esperanza, quand même, elle est un peu perdue ou elle essaye quand même de se sortir de situation? Parce qu'on a l'impression qu'elle s'enfonce au fur et à mesure de votre histoire. Elle va même jusqu'à avoir honte d'elle, de dire mériter ce qui lui arrive. Sauf qu'une victime, dans ces cas-là, n'est jamais coupable.
Non, mais je crois. Enfin, oui, vous savez, même Jésus a douté dans le désert. Hein. Donc, comme tout un chacun, oui, il y a des moments où la brutalité des fonds de cour que lui renvoie son environnement la font douter, oui, de son droit à la consommation joyeuse et gourmande de l'existence.
Ouais.
Mais franchement, il n'y a rien d'illégitime dans les envies qui peuvent la traverser.
Bon, allez, on va voir si nos libraires ont aimé votre livre, Laurent Chalumeau. On va commencer. Vous avez peur?
Ouais.
Mais non, le Canada, regardez, Josiane Letourneau.
Eh bien, pour surenchérir sur le personnage, je trouve que c'est justement l'une des belles qualités de ce livre. J'ai aimé son intelligence, j'ai admiré son honnêteté, sa façon d'être, de prendre sans détour et sans s'excuser. Et j'ai aussi apprécié la versatilité de l'écriture, les dénonciations enrobées d'humour, l'espièglerie. Par contre, je dois dire une chose, j'ai un peu trépigné en lisant. J'avais très hâte de plonger dans le feu de l'action et j'ai eu l'impression de ne pas arriver assez vite à ce moment-là.
Pas assez vite. Bon, ça va. La Suisse avec Dominique Bressoux, êtes-vous d'accord?
Ah, moi j'ai adoré ce livre. Et pourtant,
oui, Laurent.
Pourtant, un personnage féminin raconté par un homme, a priori, tous les désespoirs sont permis.
Non.
Mais en fait, vous nous offrez là un beau voyage d'une vraie personnalité vers la liberté, avec des ornières, des mirages, des chutes, mais toujours la dignité d'assumer ses choix, de débusquer les illusions avec un poil d'autodérision bienvenue. Bref, moi, pour moi, ça sonne aussi juste que la musique omniprésente. Et c'est un roman qui peut-être, dans quelques années, pourra servir de référence sur les difficultés qu'il y avait pour une femme à être libre en 2020.
Directement de votre bouche dans les grandes oreilles de Dieu.
Voilà. Il est subjugué, Laurent Chalumeau. Ah, c'est vrai que cette musique, elle rythme aussi ce livre avec Miranda Lambert.
Qui est Lambert, on vous a dit.
Magnifique. Laurent Chalumeau, il y a l'Amérique en toile de fond hein, tout au long de cet ouvrage. Une Amérique un peu déglinguée qui connaît ses traverses sexuelles de façon très médiatisée. Mais le problème est mondial. Ce n'est pas le système capitaliste qui a initié cette violence faite aux femmes. Il l'a peut-être organisé, cela dit.
Si on faisait un atlas des violences faites aux femmes, il y aurait du rouge partout. Là, pour le coup, certains occidentaux soi-disant éclairés peuvent adresser des excuses écrites aux talibans, parce que franchement, ou l'inverse, hein, mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Non, c'est absolument désespérant. Que dire?
Les réseaux sociaux aussi, ça aide pas. Vous le montrez ça avec ces réseaux qui mettent parfois une épée de Damoclès hein, sur certaines femmes, certains hommes aussi. Hein, mais Esperanza qui accepte comme ça de se laisser filmer pour un acte sur un homme. Et là, ça peut
oui,
sortir à tout moment.
C'est ce qu'on appelle le revenge porn. Alors en francophonie,
voilà,
on va dire la pornographie vengeresse.
Oui.
Mais en fait, la misogynie, la gynophobie fait l'impression d'être comme la flotte dans un dégât des eaux. C'est-à-dire on sait que l'eau, s'il y a une infractuosité ou une faille, l'eau va la trouver. La haine des femmes fait feu de tout bois. Enfin, comprenons-nous bien, je ne me suis pas réveillé un matin en disant je vais pousser un cri. Les femmes n'ont pas besoin que je vole à leur secours. Je ne suis pas un chevalier blanc. C'est l'application d'un strict bon sens et l'observation de ce qui nous entoure.
Bon, merci beaucoup Laurent Chalumeau.
Merci à vous.
C'est une réussite pour une première dans la librairie francophone. Vous avez captivé nos libraires. Vous êtes content?
Ben écoutez, je vais peut-être rester là-dessus.
Ben non, vous reviendrez.
Avec plaisir.
Il faut remettre son titre en jeu, comme on dit. Voilà. Allez, Vice, donc, aux éditions Grasset, on vous l'accorde. À bientôt, Laurent.
Merci.
Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et dans cette émission, nous donnons régulièrement la parole aux bibliothèques à travers la francophonie. Aujourd'hui, on part en France, du côté de Nantes. Bonjour Agnès Borgé.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire au service patrimoine de la bibliothèque municipale de Nantes. On va commencer par ce que vous voyez à travers votre fenêtre pour nous faire rêver. Qu'est-ce qu'il y a?
Alors je vais essayer. Alors je vois la Loire, le fleuve qui traverse Nantes, et en me penchant un tout petit peu, j'aperçois sur une rive la grue Titan. Alors c'est une grue immense, majestueuse, hein, d'un jaune éclatant, qui a été construite dans les années 50 sur les chantiers navals de l'époque, et qui est pour moi un des plus beaux témoignages du passé industriel et ouvrier nantais. Voilà.
Parfait. Alors le livre qui vous a séduit, un classique de la littérature que vous nous conseillez, quel est-il ?
C'est un drôle de livre hein, dont je voulais vous parler. Il a été publié chez José Corti en 1937 et il s'appelle Le cœur de pique. Alors c'est un recueil de poèmes pour les enfants de 10 ans et plus, écrit par Lise de Harne et accompagné de photographies de Claude Cahun. Alors juste pour les situer un petit peu, Lise de Harne et Claude Cahun, c'était deux artistes singulières hein, qui ont accompagné le mouvement surréaliste dans les années 20. Il explore les émotions, les rêveries enfantines avec un petit côté Alice au Pays des Merveilles, un petit côté décalé, vous voyez. Donc c'est une vraie curiosité littéraire que je vous encourage à découvrir, tout simplement. D'autant qu'il a fait l'objet d'une belle réédition par la maison Mémo en 2004.
Parfait. Voilà. Le cœur de pique de Lise de Harme et Claude Cahun. Merci beaucoup Agnès Borgé. Merci à vous.
Merci à vous Emmanuel.
Et on écoute bien sûr la librairie francophone en France tous les samedis à 14h sur France Inter, rediffusée à 1h du matin. À bientôt Agnès.
Merci.
On termine avec un titre francophone de l'outre-mer. Aujourd'hui, on part en Martinique avec Daudeline. Un extrait de Cafou Beat interprété par le trio martiniquais Daudeline. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Benjamin Troncin à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Juliette Drone en France. Nicolas Julliard et Sophie Grécoutchou en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Le grand voyage francophone continue la semaine prochaine avec le nouveau roman événement de Laetitia Colombani, Nimrod et Salch qui revisitent les misérables d'une façon incroyable. Bonne semaine et bon week-end à tous. Salut. Et on quitte la multidiffusion pour se retrouver sur France Inter uniquement. Je vous retrouve dimanche à midi dans la version télé de la librairie francophone sur TV5 Monde. N'oubliez pas la rediffusion à 1h du matin avec le bonus créole de Zep. Dans un instant, Daniel Fievé, son bivouac en direct du festival Mot pour Mot à la Villette.